Par Elon Musk, patron de Twitter. RFI, il est 18h, bientôt passé de 10 minutes ici à Paris. Restez bien à l'écoute de la Radio du Monde. Tout de suite, Mardi Politique.
Radio G. www.radio-g.fr
18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G. Présentée par Pierre Benoît.
Bonsoir à toutes et à tous et bonsoir Nolwenn.
Bonsoir.
Décidément bien installé à ce poste derrière la console, tu vas rester avec nous tout le long de l'émission aussi à cette place.
Exactement, ouais, j'aime bien ce rôle.
Voilà, bon, on va pas beaucoup l'entendre, mais en tout cas c'est elle qui sera aux commandes, aux manipulations de cette émission. Émission qui va recevoir le théâtre du champ de bataille, puisque nous serons avec Florent, son directeur, Florent Goulette, le directeur et programmateur même du théâtre du champ de bataille, accompagné ce soir de Emma Laude et Johanna Plancheneau, deux volontaires en service civique qui vont nous parler du projet Radio La Méduse, dont on n'avait pas encore parlé, je crois que Florent était passé l'an passé nous présenter le théâtre du champ de bataille. En tout cas, on va aussi parler de spectacle, bien évidemment, puisqu'on va parler du spectacle. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Il y a deux représentations prévues, ça commence le 9 janvier, il y en aura une aussi le 10 janvier au théâtre du champ de bataille, et Petra Corosi, la metteuse en scène de la compagnie L'Origine des Autres, sera avec nous pour nous présenter ce spectacle. Topette qui sera ponctuée de pauses musicales. On sera en équipe espoir aussi ce soir. Nolwenn, je ne sais pas si tu as les titres sous les yeux. On écoutera Luna
Swallow de Luna Low, qui on écoutera aussi Chagrin. Et je n'ai plus le nom de l'artiste.
C'est Kiss Doom Fate, Swallow, même à l'anglaise, pourront nous dire. Vélopédia également avec Nico, qui va nous partager ses astuces, coups de pédale sur les pistes cyclables angevines. Comment se déplacer en respectant la planète et en prenant soin de sa santé. Voilà, Topette, tous les soirs, 18h10, 19h, en podcast sur radio-g.fr et aussi sur les réseaux sociaux @topetteradio-g.
18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
J'ai menti, puisque Nolwenn, on va l'entendre maintenant pour un point sur les actus locales à Angers. Rebonsoir Nolwenn, on commence avec une jeune femme qui a été retrouvée noyée dans une bassine agricole à Beaupréau en Mauge.
Dans le Maine-et-Loire, le corps sans vie de Justine Roche, 24 ans, a été découvert ce dimanche dans une bassine agricole située à 500 mètres de chez ses parents. La jeune femme qui était sortie promener son chien vendredi aurait tenté de le récupérer en descendant dans cette retenue d'eau de 10 mètres de profondeur. Selon le procureur, aucun tiers n'est impliqué. Cette bassine appartient à une association d'agriculteurs. Elle est clôturée et fermée par des portails, mais ne dispose pas d'échelle pour remonter. Le chien de Justine a lui aussi été retrouvé mort. L'enquête est en cours pour éclaircir les circonstances de ce drame.
Nolwenn, tu en avais parlé dans un de tes reportages. Un bilan amer pour les commerçants du marché de Noël, place Molière à Angers.
Effectivement, le marché de Noël du bas de la place Molière s'est terminé sur un décevant constat. Les commerçants présents regrettent un manque cruel de public. Lou Salvi, le gérant du stand de gaufres, raconte avoir investi 15 000 euros, mais ses ventes ne couvrent malheureusement pas les frais. Même son de cloche pour Malvina Galland, une bijoutière vendéenne, elle estime avoir réalisé deux fois moins de chiffre d'affaires qu'à Nantes. Une réunion s'est tenue vendredi à la mairie pour discuter de la situation. Les commerçants bénéficieront donc d'indemnités. Partielle.
C'était il y a 30 ans, Angers se remémore la crue du siècle de 1995.
Et oui, en janvier 1995, une crue historique marquait l'Anjou. Après des semaines de pluie, la Mayenne, la Sarthe et le Loir débordaient, inondant les basses vallées angevines. Des villages comme Chef avaient dû être évacués. Et à Angers, les eaux envahissaient des quartiers entiers, transformant la place Molière en lac temporaire. 30 ans plus tard, des commémorations auront lieu du 6 janvier au 1er février. Des expositions, des débats et des animations seront organisées dans plusieurs communes. Le 1er février, un temps fort est prévu au centre des congrès d'Angers avec des ateliers pratiques, des conférences et même des sorties en bateau.
Merci beaucoup Nolwenn pour ce point sur les actualités locales angevines. Avant de recevoir nos invités, pensez à l'association Ezra Inclusion qui vous invite à célébrer la diversité avec son salon d'exposition d'artistes de tout horizon. Ça se passe le 11 janvier au Digital Village. Plus d'informations sur leurs réseaux sociaux. Ezra, ça s'appelle E-Z-R-A. S et aussi Cours en folie. C'est lundi prochain, on était avec Willy hier pour en parler. Séance numéro 12 de séance de cette soirée de projection de 4 à 6 courts-métrages avec possibilité d'interagir avec les réalisateurs, réalisatrices en leur posant des questions à l'issue de la soirée. Plus d'informations sur leur site internet cours49.fr. Et maintenant, on accueille nos invités.
L'invité de Topette sur Radio G.
Bonsoir Florent, si tu veux bien t'emparer du micro qui est devant toi.
Bonsoir.
Florent Goulette, directeur et programmateur du théâtre du Champ de Bataille. Tu étais venu en décembre, je crois, décembre-novembre, pour nous présenter la salle de spectacle. Tu n'es pas venu seul ce soir, puisque tu es accompagné de Emma. Emma qui est là. Bonsoir Emma. Emma et Johanna.
Bonsoir.
Bonsoir Johanna. Vous êtes toutes deux volontaires en service civique au théâtre du Champ de Bataille. Ça se finit quand le volontariat? Ça a commencé quand?
Ça a commencé en octobre, début octobre, et on finit le 28 mai.
Donc on est en plein dedans, Florent. Là, c'est le cœur de la saison pour elle.
Oui, c'est ça. Toute la saison, elles sont avec nous pour nous accompagner, travailler sur les projets de médiation notamment.
Et justement, on va en parler dans quelques instants, mais avant tout ça, on va parler théâtre, puisque du coup c'est dans le nom, on va parler d'un spectacle, puisque nous sommes aussi accompagnés de Petra. Bonsoir Petra, très près du micro, hein, n'hésite pas.
Bonsoir.
Petra Korosi, j'espère ne pas écorcher ton nom de famille, c'est bien comme ça qu'on dit?
On dit Korosi.
Korosi,
moi je vais... C'est normal de dire Korosi, parce qu'il n'y a pas les accents qu'il faut en français pour bien prononcer.
Korosi, je vais tenter de le faire, t'hésites pas à me reprendre au cours de l'émission. Toi, tu es metteuse en scène du spectacle Mais qu'est-ce qu'ils font là, de la compagnie L'Origine des Autres. Il y a deux dates au Théâtre du Champ de Bataille, hein, les 9 et 10 janvier prochain. Donc c'est quand? C'est vendredi, Florent, c'est ça?
C'est jeudi et vendredi.
Jeudi et vendredi, on pourra donner les infos pratiques tout à l'heure en fin d'émission. Je lis le synopsis, le texte de présentation qui est sur le site internet du Théâtre du Champ de Bataille. C'est l'histoire d'une famille à l'équilibre fragile où tout ne tient qu'à un fil. Deux sœurs, leur conjoint et leurs deux enfants errent dans un appartement et se croisent dans leur salon. Tout le monde est à fleur de peau, chacun porte une tragédie soigneusement cachée, des frustrations, des névroses, des angoisses mêlées de jalousie et trois petits points. Alors là, je sais pas s'il fallait que je déroule le texte ou si c'est la fin justement qui nous invite à aller voir la suite du spectacle. Petra, peut-être présenter ce spectacle justement, de quoi il parle, qu'est-ce qu'ils font là?
Alors, Mais qu'est-ce qu'ils font là est une pièce hongroise contemporaine qui pourrait se passer n'importe où. C'est un texte très très intime et en même temps très très universel parce que je pense que 99% de l'humanité se reconnaît dans ces questionnements de vivre ensemble, de famille, de quelle est notre place au sein d'une communauté. Voilà, donc ça interroge des sujets que tout le monde connaît. Donc voilà, tout le monde a quelque chose à dire sur ces sujets-là. Et donc c'est une pièce, une sorte de huis clos, on va dire, parce que c'est deux familles qui se retrouvent un peu confinées dans un appartement. Et ça interroge un peu nos liens, les liens qu'on a avec nos enfants, les liens qu'on a au sein de notre couple, et aussi qu'est-ce qu'on veut montrer quand les autres nous regardent, en fait, comment on est quand on est juste entre nous, et qu'est-ce que ça change, enfin qu'est-ce qui change quand on n'est pas vu par les autres, hein, parce que on se comporte pas pareil, et également c'est une pièce très riche dans le sens où ça interroge vraiment plein de choses de ces relations-là. Aussi, quelle est notre relation aux étrangers, en fait, comment on les accueille. Donc ça ouvre un peu la focale. On n'est pas que dans un drame intimiste ou dans une pièce intimiste, mais on est aussi un peu on peut ouvrir sur la société, comment on se comporte vis-à-vis des étrangers, de ceux qui arrivent et qui demandent à être chez nous, en fait, qui demandent une place chez nous. Donc tout ça, ce sont des sujets très très complexes, mais en même temps la pièce est une pièce qui dure qu'une heure dix, une heure et quart, on va dire, et qui joue extrêmement rapidement. Donc c'est mine de rien, c'est une comédie. Voilà, c'est une comédie. Nous on dit que c'est un vaudeville bergmanien parce que en même temps c'est une comédie très rythmée qui joue rapidement, et en même temps ça brasse quand même des sujets assez profonds.
Justement, j'allais te poser la question, puisque tu évoquais tout à l'heure le mot du drame. Là, tu parles de comédie, donc on est plutôt sur un registre du point de vue spectateur-spectatrice qui est, voilà, qui est comique, sur un registre comique, mais avec des sujets qui sont très sérieux et très profonds. Comment on essaie, comment on met en scène tout ça pour pas, caricaturer le sujet ou le discréditer, mais quand même apporter du sérieux tout en restant sur un fond de légèreté? Ça doit être dur en termes de mise en scène.
Déjà, l'écriture est un terrain super fertile, on va dire, pour ça, parce que c'est une écriture très efficace, très cinématographique. Donc, on n'est pas du tout dans un théâtre psychologique, je dirais. Comme j'ai dit, ça joue rapidement et ça joue un peu. Enfin, c'est une écriture un peu brute, un peu sans filtre. C'est-à-dire que finalement, ces êtres se cognent l'un dans l'autre sans vraiment s'en apercevoir, comme s'il n'y avait pas vraiment de, comment dire, quand je dis sans filtre ou brut, ça veut dire juste que en fait il n'y a pas vraiment le temps de réflexion, comme si on parlait plus vite que on réfléchissait. Voilà, donc les paroles vont extrêmement vite et des fois ça nous dépasse, en fait on dit des choses qu'on pensait pas dire ou on se rend même pas compte en fait de l'impact de nos mots. Voilà.
Donc les personnages, les dialogues, l'écriture même, du coup tout ça, ça constitue la pièce. Est-ce que tu parles d'un huis clos aussi? Est-ce qu'on a des, en termes de décor, de mise en scène plutôt visuel ou avec les sens, les autres sens, comment ils sont éveillés, ou alors tout est concentré sur justement ces lignes de dialogue?
Alors il y a une très grosse partie que le jeu prend en charge, bien sûr, parce que les six comédiens au plateau sont juste formidables, tous et toutes. Après, bien sûr, il y a aussi un travail tout autour, donc il y a un décor un peu naturaliste en apparence et pas tout à fait, parce que ça dénonce aussi, enfin on assume d'être au théâtre et on veut pas faire oublier aux spectateurs qu'on est au théâtre, mais donc il y a quand même un naturalisme un peu apparent et sous ça, par contre, il y a vraiment une très belle théâtralité, une théâtralité, je dirais même une folie. Donc, mais une folie dans le sens vraiment, c'est écrit avec beaucoup beaucoup d'humour. Donc oui, ça tient aussi à l'écriture, ça tient beaucoup au jeu. L'espace forcément sert aussi tout ce jeu parce qu'il y a un espace justement un peu transparent. Donc on ne sait pas vraiment quand on est à vue et quand on n'est pas à vue parce qu'il y a un plexi à un endroit d'où on peut observer les autres sans être à vue. Donc il y a aussi donc tout ce jeu de regard. Voilà.
Florence a l'air d'être un condensé de tout ce qu'on aime voir au théâtre, des sujets profonds avec une belle dimension, des beaux reliefs et puis en même temps de la théâtralité, du comique, du divertissement presque. Hein.
Oui. Je suis assez content qu'on puisse en parler avec Petra aujourd'hui parce que dans la saison, il y a un ou deux spectacles qui est un peu particulier pour moi notamment. Petra, on s'est rencontrés il y a un an et demi en discutant, voilà, en rendez-vous. Le texte, je l'ai découvert, l'auteur aussi. Alors, je ne vais pas prononcer le nom de l'auteur parce qu'il est hongrois. Est-ce que tu veux bien juste le prononcer pour moi?
Petra,
pour...
oui.
Il s'appelle Szabolcs Hajdú.
Ah oui, c'est ça, oui, je l'ai vu sur le site internet, c'est même, voilà. Même à l'écrit, c'est difficile.
Donc c'est un auteur qui n'est pas traduit en France, si je ne dis pas de bêtises, c'est toi qui as traduit le texte. C'est une équipe que je ne connaissais pas du tout, qui est basée en Vendée, mais les comédiens sont répartis un peu partout. C'est un plateau avec 6 comédiens, donc chez nous c'est assez rare, pour plein de raisons, d'avoir autant de monde sur le plateau. Donc c'est une vraie découverte d'un auteur, d'une metteuse en scène, enfin pour moi en tout cas, d'artistes qui n'ont pas joué à Angers. Enfin voilà, c'est une vraie découverte et du coup c'est un projet où j'ai beaucoup moins d'éléments que pour d'autres pour en parler, pour discuter, parce que ben on va se découvrir aussi. Jeudi, moi je vais découvrir un spectacle dont j'ai une idée en tête, mais qui est peut-être moins où j'ai moins d'éléments que d'habitude. Et donc il y avait aussi une rencontre, une envie de travailler ensemble, une envie d'y aller, quoi, une espèce de relation de confiance qui s'est, enfin voilà, une envie d'aller tenter ça en me disant allons-y, quoi. Donc il y a une notion prise de risque, j'aime pas le mot parce que le risque, voilà, on prend pas vraiment de risque dans réellement, mais en tout cas une notion de dire allez là, on va vraiment découvrir un truc sur lequel
On fait confiance, quoi.
Ouais, et je vais découvrir en même temps que les gens, la compagnie, les artistes. Donc je suis vraiment ravi que Petra vienne en parler aussi pour ça, et puis qu'on arrive encore en 2025 à prendre ce type d'initiative, nous, théâtre, voilà, de faire découvrir un auteur. J'en suis ravi aussi qu'a priori pas souvent été joué en France, même pas du tout. Voilà.
Ah donc c'est une première, hein, du coup on peut le dire, ce serait une première.
Alors qui n'est pas publié en français pour le coup et qui est, en tout cas, qui a jamais été joué et qui est traduit par Petra. Donc c'est une dimension qui est. Enfin moi je suis vraiment très très heureux qu'on arrive encore à apporter ce genre de choses.
Florent, Petra, Emma, Johanna, vous restez avec nous bien évidemment. On reste au théâtre du Champ de Bataille ce soir dans Topette. On va parler deux trois mots quand même tout à l'heure sur la compagnie. Au moins avant tout ça, on fait une pause musicale avec, on le disait tout à l'heure, Nolwenn Swallow de Lunar Lock qui fait partie désormais de l'équipe Espoir 2025 du Chabada. C'était Swallow de Lunar Lock, sur le 101.5 FM de Radio G à l'écoute de Topette. Ce soir, nous sommes au théâtre du Champ de Bataille avec du coup son directeur programmateur, les deux volontaires en service civique, donc Johanna et Emma. Et on parle aussi du spectacle qui va avoir cours jeudi et vendredi, du coup de représentation au théâtre du Champ de Bataille, bien évidemment. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Alors non pas les invités, mais c'est bien le titre du spectacle de la compagnie L'Origine des Autres. Et on est avec Petra Karachi pour en parler sur le 100.5 FM. J'ai essayé, Petra, tu me dis si la prononciation...
C'était pas mal.
Je tente ma chance aussi. Tu as mis en scène ce spectacle-là. Alors, on en a parlé. On a parlé de la thématique, des personnages aussi, des dialogues qui étaient très rapides. Et puis, de ce huis clos, donc avec la déco. Mais tu voulais aussi parler de la lumière qui a son rôle. J'ai l'impression que c'est un autre personnage. Hein.
Bien sûr. C'est un personnage à part entière. Oui, parce qu'en fait, j'ai parlé un peu du semblant naturalisme de la pièce, mais que finalement, ce n'est pas du tout, en fait. C'est, il y a plein de moments en fait dans la pièce qui sont déréalisés, et ça c'est très important d'en parler aussi, qui sont déréalisés où on glisse un peu dans la tête des personnages, comme si on allait voir un peu de l'intérieur ce vertige là qu'ils ont, ou ces pertes de repères ou tout ça. Et pour ça en fait il y a la création sonore d'Antoine Herniot et la création lumière de Julien Causalet, qui sont très très importantes pour nous aider justement à déréaliser ces moments, pour qu'on soit pas dans une pièce réaliste ou naturaliste. Voilà. Donc j'ai parlé aussi des comédiens tout à l'heure.
Il y a 6, hein.
Il y a 6 comédiens, donc 3 comédiennes et 3 comédiens qui sont qui viennent un peu de partout de France. Donc il y a toute une équipe, 3 comédiens qui sont de Paris, et puis il y a une équipe une partie de l'équipe qui vient de Vendée, et une dernière partie qui vient de Bourgogne. Voilà. Donc c'est très très divers, voilà. La
compagnie L'Origine des Autres, justement. Alors, les autres spectacles, les autres créations en cours, est-ce qu'on est souvent sur des thématiques ou des formats théâtraux comme celui-ci qu'est-ce qu'ils font là?
Alors oui, notre toute première création était aussi une création avec 6 comédiens au plateau. Donc, je ne sais pas pourquoi ce numéro nous poursuit comme ça, ou ce chiffre. Donc ils étaient déjà 6 au plateau, et c'était aussi une écriture contemporaine hongroise. Ça s'appelait Jour de colère. C'était écrit par Árpád Schilling, metteur en scène et dramaturge hongrois. Donc on a créé la compagnie en 2019 avec François Jolin, qui est aussi comédien et metteur en scène également. Donc notre première création, c'était une mise en scène, c'était aussi ma mise en scène. Donc c'était Jour de colère, qu'on avait joué essentiellement à Lyon, parce que je sais pas pourquoi, mais en fait on a joué à Lyon parce qu'on avait aussi des théâtres qui étaient intéressés par là-bas. Donc on l'a joué au Théâtre de l'Élysée et au Célestin. Et après on avait notre deuxième création, qui était Le rêve d'un homme ridicule de Dostoïevski, mis en scène par François Jolin, qui jouait à la Cartoucherie pendant tout un moment, et un petit peu en Vendée aussi. Voilà, donc ce sont nos deux précédentes créations, et là on est à notre troisième. Voilà.
Merci beaucoup Petra d'être venue dans Topette ce soir pour nous parler de ce spectacle-là. Bien sûr, tu restes avec nous jusqu'à la fin d'émission pour redonner les infos pratiques. Je te dis merde par avance, hein, pour le 9 et le 10 janvier qui arrivent, les deux représentations. C'est à quelle heure, Florent, d'un tout petit mot? C'est à 20h, 19h30 qu'on sache?
À 20h.
À 20h, voilà. Donc c'est en soirée, on peut se faire plaisir tout simplement. On indiquera où et comment réserver dans quelques instants. Mais avant tout ça, je me tourne vers Emma et Johanna, puisqu'on va parler radio. Mais cette fois-là, radio de la Méduse. J'aimerais bien savoir dans quel radeau vous êtes en train de vous embarquer. Qu'est-ce que ce projet de médiation? Je ne sais pas qui veut entamer les choses, faire une entrée en matière. Peut-être que c'est Emma qui peut nous apporter quelques informations. Oui. Qu'est-ce que cette radio de la Méduse, Emma?
Alors, c'est vraiment le temps fort de l'année au Théâtre du Champ de Bataille, qui va s'articuler autour d'un spectacle qui s'appelle Job Story, donc qui est mis en scène par la compagnie, par Anne-Claude Remarie et la compagnie Nom d'un Bouc. Et en fait, autour de ça, on s'est dit que ça pouvait être l'occasion de mettre à l'honneur la fiction radiophonique et de faire découvrir à nos spectateurs quelque chose qui se passe plutôt dans les oreilles, contrairement à ce qu'ils ont l'habitude de faire au théâtre. Donc voilà, de mettre à l'honneur tout ce qui était format podcast, mais aussi de les initier au bruitage. On m'a proposé des ateliers la journée aussi du 22 février. Voilà, si tu as quelque chose à ajouter.
Johanna, donc ce sont des enfants, c'est ça en fait? On propose des stages de création, de médiation à un jeune public plutôt?
Alors sur la journée du 22, on est sur une journée tout public. Donc voilà, ce sera pour qui veut venir découvrir avec nous la fiction radiophonique. Donc oui, on a à la fois des ateliers bruitage. On a aussi au Théâtre du Champ de Bataille une exposition visuelle et sonore. Du coup, c'est une exposition d'Hervé Roche qui sera augmentée en fait par un de nos ateliers d'écriture, qui va venir écrire des petites fictions autour de ces tableaux. Et on aura aussi une première au Théâtre du Champ de Bataille, une visite sonore du théâtre, écrite par une auteure qui va nous faire en fait visiter le théâtre autour de points d'écoute différents, et on pourra comme ça découvrir l'intérieur du théâtre du Champ de Bataille par les oreilles, en fait.
Et donc vous, votre rôle, Emma et Johanna, c'est d'accompagner tout ça sur la communication, peut-être, de mettre en lien, de participer à tous les aspects de la médiation autour de ce projet, c'est ça, Emma ?
Oui, bah nous, on a beaucoup pensé le projet en amont. Aussi, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a des stages qui vont avoir lieu. Donc il y a un stage adulte du tas du champ de bataille. Il y a aussi, on va être en partenariat avec l'association Abri de la Providence, qui vont aussi préparer un podcast. Des adolescents aussi, pendant les vacances de février, vont pouvoir aussi préparer leur podcast et vont le jouer en direct le même jour du coup que le spectacle Job Story. Donc nous on va être là présents sur place, on va accompagner la visite sonore. C'est le gros projet. Les ateliers, va y avoir un de nos régisseurs aussi qui sera là pour l'animer. Et puis ouais, nous on était vraiment sur toute la pensée du projet, finalement toute la conception de A à Z, quoi.
Les podcasts, c'est quelque chose que vous écoutez et consommez, entre guillemets, Johanna, toi tu écoutes beaucoup de podcasts?
Ouais, moi je suis assez consommatrice de podcasts, j'aime bien écouter des podcasts, en découvrir des nouveaux sur plein de thématiques différentes. Je trouve que c'est un bon moyen de s'informer, de aussi découvrir des nouvelles choses et de même parfois de rire.
C'est un sens qui est souvent présent au théâtre, mais qu'on oublie parfois, Florent, puisque du coup nos oreilles sont toujours stimulées, que ce soit par la musique et tout, mais on pense à nos yeux, mais en fait on oublie qu'on a des oreilles.
Oui, et puis en fait l'origine du projet a été vraiment la rencontre avec Anne-Claude Romary, donc qui est autrice, metteuse en scène, comédienne, et qui écrit des podcasts, qui réalise des podcasts, des fictions radiophoniques depuis très longtemps. Elle a beaucoup travaillé avec France Culture, notamment, pendant très longtemps. Et qui a vraiment envie de travailler qui travaille sur le lien entre la radio et le théâtre. Entre, justement, des formes qui sont pas forcément, à l'origine, en tout cas, évidentes, puisqu'on n'est pas du tout dans le même rapport au texte, dans le rapport à l'écoute, au visuel. Et, son spectacle Job Story, et un spectacle qui, à l'origine, se joue sur une toux au bord de la Loire. Elle nous emmène sur une toux. Ils sont dans la cabine avec les quatre comédiens. Et nous, on entend le texte qu'ils sont en train de jouer avec les bruitages en direct. Soit on les regarde, soit on regarde le paysage. Elle est venue me voir en disant, j'adapterais bien ce spectacle-là à la salle. Et on a commencé à se dire, mais en fait, il y a un sujet très large, le lien entre théâtre, jeu, radio, texte, podcast. Donc on a développé avec Emma et Johanna tous ces aspects-là pour faire une journée le 22 qui est une journée événement. Mais comme disaient Emma et Johanna, plein d'autres actions sont réalisées en amont avec des amateurs, avec différents groupes pour s'amuser aussi à découvrir le monde de la radio, le bruitage, la fiction. Et puis c'est aussi parti à titre individuel, mais je partage avec beaucoup de gens, je pense, une vraie... amour de la radio aussi, de ce que ça apporte aussi comme autre sensation que le visuel. Voilà, je pense notamment à s'informer par la radio, c'est très différent, je trouve, que voir des images à la télé ou sur internet. Je trouve que c'est un rapport très différent à l'émotion, à ce qu'on vit aussi, à l'imaginaire. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de travailler là-dessus. J'ajouterais juste que pour nous, en tout cas, c'est un projet qui nous a fait beaucoup travailler, qui continue et qui est très difficile, parce que pour le coup là on doit se priver des yeux, entre guillemets, mais en tout cas on doit vraiment réfléchir son audio et collectif, alors que la pratique de la radio, du podcast, est plutôt individuelle. Comment on met du collectif là-dedans, donc ça nous fait beaucoup travailler, beaucoup réfléchir.
On continue à mettre des bonnes choses dans nos oreilles, en plus de vos propos et de, parce que vous nous emmenez aussi là, vous stimulez nos imaginations, Emma, Johanna, Petra et Florent. On va repartir en pause musicale sur le 100.5 FM, toujours à l'écoute de Topette. On écoute Chagrin de Kiss Dumb Fate et on revient tous ensemble. Non, pardon, pas du tout. Non, on va aller avec Vélopédia, Nico, qui nous partage ses coups de cœur piste cyclable sur Angers.
Vélopédia, la chronique qui vous met la tête dans le guidon, avec Nico. Dans Topette.
Bonsoir à tous et bonne année les cyclistes. Vélopédia vous souhaite plein de kilomètres à vélo. Au moins 2025 au compteur de votre vélo cette année. Ce serait pas mal si tout le monde atteignait cet objectif. Ça ne fait que 5 kilomètres par jour. Vous vous rendez compte, c'est peanuts, je trouve. Et tout ça sans vous retrouver encastré dans le pare-choc d'une voiture. Ce serait pas mal. Alors, l'année dernière, on est parti sur les pistes cyclables angevines à la rencontre des vélotaffeurs, même vélotaffeuses plus précisément, qui nous racontaient leur motivation. Eh bien, pour démarrer l'année, j'ai rencontré Marine, un oiseau rare que je convoite depuis longtemps, puisque Marine se déplace en vélo cargo long tail. Un vélo à deux places enfant sur le porte-bagages, soit trois usagers sur un seul véhicule. Il m'a fallu attendre un dimanche matin en milieu urbain pour faire cette rencontre sauvage. Marine m'a expliqué pourquoi on achète un vélo long tail plutôt qu'un vélo classique, et je m'excuse par avance de la qualité sonore de l'interview, mais il y avait du vent.
Alors, on achète un vélo long tail tout simplement pour ne plus utiliser la voiture et se déplacer en sécurité avec les enfants. Le vélo classique, c'est qu'il aurait fallu qu'on mette un enfant en porte-bébé derrière et que le deuxième plus grand soit directement sur son vélo. En termes de sécurité, les enfants étaient petits et que dans nos déplacements du quotidien, c'était pas forcément adapté.
Des raisons pratiques donc pour gagner en sécurité ont décidé Marine à passer le cap et faire le choix d'un long tail. Elle me confiait se déplacer quotidiennement entre les Hauts de Saint-Aubin, la Doutre et le centre-ville d'Angers, à plusieurs reprises chaque jour, et le long tail lui apporte une capacité de transport bien plus efficace que la voiture. Et comme tous les cyclistes quotidiens, il n'y a pas de retour en arrière possible pour Marine, qui expose les mêmes motivations que nous tous.
Une fois qu'on est passé en mode vélo, c'est bien notre quotidien. Vraiment, enfin, il n'y a pas de... La voiture, c'est bien s'il pleut ou vraiment il fait trop froid, ou pour faire des distances plus longues au quotidien, pour se garer, on a plus de problèmes. Enfin, vous voyez, ça remplace toutes ces difficultés, et puis bah, ça coûte quand même moins cher à l'entretien. Il faut essayer et se rendre compte à quel point, en fait, c'est pratique et c'est facile de se déplacer. En fait, on se déplace avec un long tail comme avec un vélo normal. C'est juste qu'il y a le poids derrière. Nous, il n'est pas électrique, donc ça rajoute le côté sportif. En électrique, je pense que c'est encore mieux, parce que du coup, dans l'ensemble des déplacements, on peut aller encore plus loin.
Je remercie Marine d'avoir pris le temps de nous partager son expérience, et je la renvoie encore sur son long tail avec les deux enfants, les deux trottinettes et un peu de bazar sur le porte-bagages avant, s'en aller voguer sur les pistes cyclables, aussi à l'aise que n'importe quel cycliste des villes. Comme quoi, parfois, la taille, ça compte.
Vélopédia, la chronique qui vous met la tête dans le guidon. Avec Nico. Dans Topette.
Merci beaucoup Nico, on se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle chronique Vélopédia, mais avant tout ça on continue avec nos invités de ce soir. On parlait de radio, de la radio de la Méduse avec Johanna et Emma, le projet de médiation qui a cours incessamment sous peu au Théâtre du Champ de Bataille, qui est donc notre invité de ce soir. On a aussi parlé du spectacle Mais qu'est-ce qu'ils font là, de la compagnie L'Origine des Autres, oui c'est dans ce sens-là, avec Petra, la metteuse en scène, qui nous en a parlé il y a quelques instants. On parle aussi de ciné débat, je crois, Florent, Emma, Johanna. Johanna, apparemment, c'est toi qui es désignée pour nous parler de ce ciné-débat au Théâtre du Champ de Bataille.
Alors, ce ne sera pas un ciné-débat, mais un ciné-famille.
Un ciné-famille, pardon.
C'est ça, du coup, qui aura lieu le 26 janvier, un dimanche 26 janvier, et où, du coup, en fait, on aura une diffusion le matin de courts-métrages à destination des enfants à partir de 3 ans, et l'après-midi une diffusion de Pogno sur la falaise, donc pour les enfants à partir de 6 ans, mais finalement aussi pour tous les âges. Et on sera aussi accompagné de l'association Tempête, qui va venir faire des médiations scientifiques sur la thématique autour de l'eau, qui est un peu la thématique de la journée, puisque les courts-métrages du matin et le film de l'après-midi Pogno sur la falaise seront sur la thématique de l'eau.
Voilà, le ciné, donc, famille, et non pas débat. Tu redonnes la date, s'il te plaît, Johanna?
Oui, donc, ce sera le 26 janvier, à partir de 10h30, au Théâtre du Champ de Bataille.
Est-ce qu'il faut s'inscrire? Est-ce que c'est en accès libre?
Oui, donc, il faut réserver sur le site du Théâtre du Champ de Bataille, théâtreduchampdebataille.net.
Voilà, tout simplement, c'est bien celui-là, Florent.
Ouais, c'est ça.
Théâtre.net. Johanna, Emma, puisque vous êtes avec nous ce soir en volontaire, en service civique au sein du Théâtre du Champ de Bataille, l'occasion de vous poser deux, trois questions quand même sur le pourquoi vous avez choisi cette structure pour effectuer votre service civique. Est-ce que ça permet de réfléchir à un projet, de construire, de consolider? Emma, qu'est-ce qui a motivé ta venue au Théâtre du Champ de Bataille?
Alors moi, j'ai une licence en philosophie et sociologie. Voilà, ce qui est connu pour pas avoir énormément de débouchés très clairs. Et ça faisait un moment que je cherchais quelque chose qui allie un petit peu la culture, aussi cette réflexion que je peux avoir en sociologie ou en philo, et aussi du social, du lien avec les publics. Voilà, je suis aussi animatrice à côté, donc je cherchais quelque chose en lien avec de la jeunesse. Et donc, je voulais, j'ai fait du théâtre plus jeune et je voulais renouer avec cette partie-là. Donc j'ai cherché des services civiques dans le monde de la culture, et en fait, un petit peu partout en France, parce que j'étais à Lille pour mes études. Et donc c'est à cette occasion que j'ai rencontré Florent, et que le courant est bien passé, que le projet du théâtre m'a beaucoup plu. Donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivée là.
Voilà, c'est taillé pour toi finalement ce service civique jusqu'en mai, hein, c'est ça la fin du volontariat. Ouais. Après, d'autres horizons vont peut-être s'ouvrir. Johanna, toi, qu'est-ce qui a motivé ta venue au Théâtre du Champ de Bataille?
Eh bien, moi j'étais en licence art du spectacle en fait à LUCO à Angers et j'avais Florent comme enseignant. Et du coup,
recrute à la source en fait.
et du coup, je connaissais bien le théâtre et c'est vrai que j'avais besoin d'une année en fait après ma licence pour réfléchir un peu. Et me poser, savoir un peu où est-ce que j'allais. Et du coup, l'alternative du service civique, c'est vrai que c'était quelque chose qui était bien fait pour moi et qui voilà me permet d'avoir du temps pour réfléchir, faire d'autres projets à côté aussi, et en même temps de m'investir dans un projet culturel et le projet du théâtre et de rester dans ma filière. Donc voilà.
C'est à double tranchant, Florent, les services civiques à la fois, ça permet de consolider d'apporter un soutien à l'équipe et en même temps, le fait même d'avoir des services civiques, ça participe à la médiation culturelle d'une certaine façon puisque ça consolide les projets des personnes qui viennent.
Oui, alors oui, mais comment dire, pour nous, en fait, les volontaires font partie de l'équipe pendant une saison. Travaille sur des projets qu'on n'aurait pas l'occasion de mener ou en tout cas pas de creuser autant. Je pense à Radio de la Méduse, c'est vraiment ça. Donc c'est vraiment une ressource super pour nous. Les volontaires, ils apportent aussi des projets parfois à eux, des envies. On discute de l'échange et puis finalement, comme les compagnies qui viennent jouer au champ de bataille, qui sont pour beaucoup des compagnies dites émergentes, même si j'aime pas trop le terme, en tout cas sont aussi dans la construction de leurs projets pour beaucoup. C'est assez cohérent pour nous d'accueillir des volontaires aussi pour questionner le projet pour certains, pour faire avancer les choses et puis mettre aussi deux personnes en plus dans l'équipe avec beaucoup de joie, beaucoup de bonne humeur. Je voudrais quand même préciser qu'on est quatre au quotidien. Il y a Marie-Laure Pilar qui est avec nous au quotidien et donc ça apporte beaucoup au projet dans la richesse du projet.
Voilà, bon, le Théâtre du Champ de Bataille, qui est donc, on n'a pas donné l'adresse, c'est pas un 6 à tout hasard qui s'accolerait avec le.
Non, c'est le 10.
C'est le 10, bon, on n'est pas là. Phonétiquement, c'est presque pas loin. Le reste des actualités, du coup, concernant le TCB, en plus du projet Radio de la Méduse ou du spectacle dont on a parlé, le reste de la programmation, on découvre comment, Florent, Emma, Johanna, je sais pas, qui peut s'en charger.
Emma. Sur le site, voilà, où on a des programmes aussi.
Voilà, sur les réseaux.
Sur les réseaux sociaux, ça y est, vous êtes sur Instagram, je crois.
Ça fait quelques années. Alors, par exemple, les volontaires m'ont servi à me faire comprendre que c'était utile.
Voilà, c'est utile. Des podcasts, peut-être un projet de podcast du TCB, on ne sait pas. En tout cas, merci beaucoup, Emma. On va redonner les infos pratiques avec Johanna concernant Radio de la Méduse le 22 février. Je crois que ça, c'est la date clé.
C'est ça. Et on peut réserver sur le site du Théâtre du Champ de Bataille.
théâtreduchampdebataille.net.
Et d'ailleurs, pour le stage adolescent, il y a encore des places. Donc, si vous voulez réserver les ados qui nous écoutent.
Alors, la question, c'est ados de quel âge à quel âge, du coup?
Alors, c'est de 14 à 18 ans.
14 à 18 ans, voilà, ça fait quand même une belle tranche d'âge. Merci beaucoup d'être passé dans Topette ce soir. Florent et Petra, même, il nous reste encore quelques instants pour parler de ce spectacle. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils font quoi le 9 et 10 janvier prochain là? Qu'est-ce qu'ils vont faire au Théâtre du Champ de Bataille, Petra?
Alors, il y aura une super équipe avec 6 comédiens à tomber qui s'appellent Yannick Landrin, Manon Knesset, François Jolin, Antoine Hermiotte, Lila Charojdi et Dorian Gautreau. Et ils seront accompagnés par un créateur lumière incroyable qui s'appelle Julien Kozalek. Et ils vont jouer une pièce en même temps très tragique et en même temps très 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 drôle. Parce que finalement, nos tragédies quotidiennes peuvent aussi être très drôles regardant de l'extérieur. Voilà, donc venez, ne ratez pas ça.
Et un format très court, ça c'est important de le préciser. Souvent on a peur d'aller au théâtre parce qu'on a peur que ce soit trop long. Là c'est
alors,
une grosseur.
Oui. C'est vrai que ça dure qu'une heure quinze et ça passe très très vite. Aussi c'est très très accessible. Des fois on a peur d'y aller parce qu'on se dit que théâtre contemporain, on n'y comprend rien, nanana. Mais en fait non, pas du tout. Là c'est une écriture tout à fait simple et tout à fait accessible. Voilà. Et
imaginons qu'on ait des auditeurs auditrices qui se soient mises au hongrois à apprendre le hongrois. Peut-être rappeler l'auteur du coup de cette pièce de théâtre, son nom et puis comment on peut découvrir l'original qui n'est pas traduit. On le rappelle.
Oui. Alors si c'est traduit parce que je l'ai traduit pour pouvoir le jouer. C'est pas encore édité, mais j'espère que ça le sera un jour. Il s'appelle donc Roy Dussabolch, l'auteur qui est aussi cinéaste et comédien, acteur, écrivain, voilà, réalisateur également. Donc, il est hongrois, mais cette pièce n'a rien à voir avec la Hongrie dans le sens où ça pourrait se passer n'importe où. En fait, c'est vraiment très important que ça pourrait se passer en Argentine ou en Suède. Ce sont vraiment des thématiques très, très universelles qu'elle brasse, cette pièce. Donc, c'est pour ça aussi que je dis que c'est accessible pour tout le monde, partout dans le monde. Voilà.
Merci beaucoup, Petra Kuroshi.
Kuroshi.
D'être passé dans Topette ce soir, metteuse en scène de Mais qu'est-ce qu'ils font là, de la compagnie L'Origine des Autres. Ce sera les 9 janvier et les 10 janvier au Théâtre du Champ de Bataille à 20h. Réservation théâtrechampdebataille.net. Maintenant, on connaît l'adresse du site internet. On se dit rendez-vous au mois prochain, du coup, Florent.
Oui.
Eh ben oui, voilà, le rendez-vous est déjà pris. Nous, demain, on sera pas là. Voilà, on se retrouve jeudi avec Holy Bird, un studio d'animation 2D qui a ses bureaux à WeForge, partenaire de l'émission Topette. Et on se quitte avec Millième de Seconde. Prenez soin de vous. À demain. Et Topette. À dans 2 jours.
À l'heure où les photos atterrissent dans nos téléphones portable et de manière totalement éphémère, oui, ça fait plaisir de voir des expos photos et voir de la photo sur un support concret, grand format, ça fait plus que plaisir parce que ça s'imprègne au fond de la rétine d'une manière différente que les photos dans nos téléphones. Voilà.
Anne-Christine Poujola est la seule femme photographe de l'AFP en France. Riche d'une expérience de plusieurs dizaines d'années en photojournalisme, elle propose pour Millième de Seconde une exposition sur les championnats du monde 2022 de cyclisme sur piste. Millième de Seconde, c'est le festival de la photographie sportive chaque année à Saint-Mathurin-sur-Loire.
J'ai commencé à faire des photos à l'âge de 10 ans parce que mon père était un photographe amateur au sens noble du terme. Il était passionné de photos, il avait un labo photo à la maison, il faisait des tirages. Moi j'adorais regarder ses tirages, il avait des bouquins photos partout. Et il m'a offert mon premier appareil photo à 10 ans et il m'a initié à la photographie, au développement et au tirage. Et donc j'ai assez rapidement eu envie d'en faire mon métier et de faire du photojournalisme. Et en fait, j'ai croisé un responsable photo du côté de Marseille qui travaillait, le responsable photo du bureau de Marseille de l'AFP, à qui j'ai demandé un stage, qui m'a pris en stage. J'ai adoré l'AFP et j'en suis jamais partie. Voilà.
Ce qui est intéressant avec la photo, le journalisme en plus, là on croise beaucoup de disciplines, on est vraiment à la croisée en plus avec l'artistique, le côté créatif. Comment tu travailles toi? Est-ce que tu as des routines? Est-ce que tu as une patte aussi? Est-ce qu'on peut facilement reconnaître tes photos par exemple?
La première manière d'aborder quel que soit le sujet, c'est le photojournalisme. Et le photojournalisme pour l'AFP, ça veut dire qu'il faut être le plus proche possible des faits, quels qu'ils soient, et des faits les plus importants, que ce soit du sport, mais ça peut être aussi de la politique, du fait divers, de la manifestation, des incendies. Enfin, l'agence France-Presse couvre tout ce type d'événements. Et je pense que la part artistique, une fois que la partie factuelle a été traitée, je pense qu'on peut s'autoriser à avoir un regard ou un œil artistique. Mais dans un premier temps, il est très important de pouvoir fournir aux clients de l'agence France-Presse la partie la plus factuelle du reportage.
Et en même temps, des fois, il y a des faits qu'on ne peut pas anticiper.
Absolument.
Alors comment on guette ça? Comment on anticipe?
Eh bien, on est prêt. En fait, il faut être prêt à toute éventualité. C'est vraiment très important. Et donc, je pense qu'il faut être concentré pour être prêt à réagir à un événement que l'on ne connaît pas encore, mais qui peut surgir. Et ça peut vraiment... Et dans les événements sportifs, il y a eu de grands faits historiques dans les événements sportifs, comme dans le discours de manière générale, et effectivement il faut être prêt pour la victoire ou la défaite, mais aussi les blessures, des comportements. Il y a aussi des manifestations, il y a des gestes politiques qui existent dans le sport comme il y en a ailleurs, et donc il faut être toujours prêt à faire une photo que l'on n'a pas prévue, en ayant à l'esprit qu'il nous faut à ce moment-là techniquement avoir le bon angle et la bonne focale qui peut se prêter. Et si on n'y est pas, se déplacer ou être à même de réagir si à l'origine on n'était pas placé au bon endroit. Mais ça, c'est un métier de journaliste à la base, c'est-à-dire que C'est ce qu'on attend d'un reporter photographe.
On sent le regard avisé et même l'expérience. Peut-être que au travers de ces propos là, il y a des images qui te viennent en tête, des choses concrètes que toi tu as pu vivre et qui sont venues alimenter ces paroles.
Sur le cyclisme sur piste par exemple, il y a au cours de course, il y a des chutes. Ça existe aussi beaucoup sur en cyclisme, par exemple, le Tour de France a son lot de surprises. On peut avoir une grosse chute de peloton avec un peloton avec des blessés graves. On peut avoir le maillot jaune qui abandonne, on n'est pas au bon endroit et tout d'un coup l'étape ne se déroule plus du tout comme c'était prévu. On peut avoir tout un tas d'éléments qui vont venir changer le cours de la journée en fin de compte. Voilà.
On va essayer de donner à voir maintenant sur les photos qui sont exposées, par exemple ici à millième de seconde. On est sur des photos colorées, on est sur des photos. T'essaies d'avoir des groupes, des individus. Comment tu...
J'ai fait les deux. J'ai fait des photos de groupe en course pour montrer la bataille, la lutte, le fait qu'ils soient nombreux. J'ai voulu aussi montrer le dispositif où ce sont des courses qui se déroulent sur une pente qui est très très forte. Le vélodrome a une pente qui est forte et s'ils sont pas lancés, ils peuvent pas tenir, ils vont chuter. J'ai pas mal travaillé avec des vitesses lentes en photographie pour montrer justement la vitesse du vélo, le mouvement, où en fait j'ai essayé de jouer avec les lumières et le décor qu'il y a derrière pour avoir un filet de lumière, un jeu de noir et blanc et que seul le cycliste soit net dans l'image pour montrer sa vitesse. J'ai voulu montrer l'interaction qu'il y a avec le public aussi. Une photo de joie quand il y a une victoire, le public avec un drapeau et finalement aussi le combat qui est mené pour arriver jusqu'à la victoire. Voilà.
Tu parles de lumière. Les photographes ne la prennent pas souvent. Qu'est-ce que ça fait quand même d'être mis en avant soi?
Je pense que c'est pas mal d'expliquer au public comment on arrive là et comment sont faites les images. Parce qu'effectivement, les photos, ça fait partie de notre quotidien à tous. Elles arrivent assez facilement jusqu'à nous. Maintenant, elles arrivent de plus en plus facilement jusqu'à nous. Je pense que tout un chacun ne réalise pas la difficulté qu'il faut pour arriver à produire ces images, c'est-à-dire le fait d'avoir à se placer, se déplacer avec du matériel, maîtriser le matériel technique, les appareils photos. Il y a une multitude d'angles, de focales et de choix techniques qu'on fait en amont de l'image qui est montrée. Je trouve intéressant de parler effectivement des photographes derrière la photo. Ouais. Pour que les gens réalisent que c'est pas facile d'arriver jusqu'à cette image-là. Il faut de l'expérience, de la chance, des choix. Il y a les photos rêvées aussi, celles qu'on n'arrive jamais à faire. Voilà.
Et des fois, elles sont inattendues et elles sont magnifiques.
Oui, tout à fait. Il y a une part de chance, absolument. Il y a une phrase qui dit le manque de chance est une faute professionnelle. Ouais, effectivement, il y a une part de chance dans ce métier aussi. Mais il y a une préparation en amont qui favorise la chance. Et il y a une expérience petit à petit qui favorise cette chance aussi.
Aujourd'hui, il y a la question de l'intelligence artificielle qui déboule. Alors, elle ne pourra pas remplacer un fait. Elle ne pourra pas aller capter un fait.
Non, je pense que tant qu'il y a un positionnement de photographe pour dire « moi je suis là pour relater des faits », je pense que dans une certaine mesure, la prise de vue mise dans ce contexte-là me met à l'abri d'un détournement par l'intelligence artificielle. Voilà, je le dirais comme ça.
Est-ce que c'est ce qui va sauver la photo humaine, entre guillemets, c'est justement le fait journalistique?
Moi, je crois. C'est le fait qu'on soit attaché à ça. Et qu'on ait envie de continuer d'être attaché à ça. C'est-à-dire que si on dit, nous, on a besoin de pouvoir se référer à des gens qui nous relatent des faits et uniquement des faits, je pense qu'à ce moment-là, on arrivera à avoir une forme d'indépendance par rapport à l'intelligence artificielle.
Voilà. Merci, Anne-Christine Poujola.
Avec plaisir.
Le festival millième de seconde à Saint-Mathurin-sur-Loire a lieu tous les ans et met en lumière le métier de reporter photographe autour d'un thème commun, le sport. Plus d'informations sur millième de seconde au pluriel.com.
Les mots bâtards, les mots qui brûlent, les détournés en faire des vannes, s'ambiancer, sans danser, valser ta bouche, verser les vers, s'y mettre à fond, leur donner tort, leur des raisons, sonne bien trop fort, alors écris-les sur ton terre. Fais gaffe aux gains sur la prod, creuse un peu le 500 Hz. C'est février, tous leurs codes, fais donc briller ta colère et dissous les mots qu'ils grognent. Tout ce qui tue la trêve, tout ce qui pue la crève. Si c'est possible, si c'est possible, on aura plus besoin de rêve. Si c'est possible, si c'est possible, on aurait plus besoin de rêve. Manger la mer et boire le ciel, comprendre que rien n'est si beau. Partir à Tanger au soleil et faire brûler les oiseaux. Rester à ranger sous la grêle, endurer les moments bleus, visquer les fouteurs de merde.
C'est tout.